Vous écoutez France Musique.
Merci Thierry Beauvert, passez un très bon dimanche soir et à la semaine prochaine.
Oui, notre parti, parti d'Henri. Oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris le parti. Notre parti, parti d'Henri. Oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris le parti.
Nous avons pris le parti de prendre la tête d'un parti.
Moi j'aime pas les types de mon âge qui disent j'aime les jeunes.
La difficulté de devenir soi-même prend un sens concret et même parfois très violent.
Mais enfin, c'est impossible. Le tennis, c'est pas ça.
Bonsoir, bienvenue à vous dans Le Parti d'en jouer, ravi de vous retrouver comme chaque dimanche soir. Et ce soir, c'est un pianiste que je reçois ici en tête à tête. Il est jeune en âge, mais l'âge n'est finalement pas ce qui le retient pour être brillant du point de vue de la profondeur, digitale et intellectuelle. Pour certains, le monde du piano s'arrête aux deux dimensions de l'ivoire et de l'ébène. Pour lui, il s'agit de concilier le toucher à la pensée, l'être intérieur aux voix extérieures qui l'entourent. Et j'ai l'immense plaisir de recevoir le pianiste Jean-Paul Gasparian. Bienvenue à lui et bienvenue à vous.
This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The end. No safety or surprise. The end. I'll never look into your eyes again.
Bonsoir Jean-Paul Gasparian.
Bonsoir.
C'est pas mal de commencer un parti d'en jouer avec la fin. Est-ce que vous préférez la fin d'un concert ou le début du concert? Qu'est-ce qui est le plus excitant?
La fin. La fin.
Pourquoi?
La fin parce que tout le mouvement du concert et son inspiration amènent en général à un jeu encore plus énergique, encore plus inspiré à la fin.
Vous avez 18 ans.
Oui.
Et alors, bon, je le dis pour les auditeurs, c'est vrai que ce sera un parti d'en jouer teinté de philosophie parce que c'est quelque chose qui est très important pour vous. Vous avez été premier prix du concours général en philo sur un sujet qui m'intéresse beaucoup et j'aurais bien aimé lire votre copie. C'est « Y a-t-il une bonne ignorance ?»
Exactement.
Comment on le traite, ce sujet-là? Alors, parce qu'on pourrait se le poser pour la musique, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas nécessité parfois à ignorer un peu ce qui nous entoure et à ne pas être surchargé de références?
Oui, exactement. Si je me souviens bien, j'avais essayé de traiter le sujet autour de la problématique du savoir et de la vérité. Et j'avais terminé par Georges Bataille, justement.
Alors, on va parler de Georges Bataille, justement, en ouvrant votre partie d'en jouer avec Mozart et ses points de friction entre sujet et objet, entre ce qui se passe à l'intérieur de l'âme, de l'esprit d'un musicien et ce qui l'entoure, les voix extérieures, ici avec l'ouverture de Don Giovanni dans une version un petit peu particulière. C'est l'ouverture de Don Giovanni avec Furtwängler à la baguette du Philharmonique de Vienne pour ouvrir votre partie d'enjouée. Jean-Paul Gasparian, vous avez 18 ans, vous êtes pianiste. Et alors ça, c'est intéressant pour vous parce que ça nous permet de parler d'expérience intérieure. Est-ce qu'il n'y a d'expérience qu'intérieure, Jean-Paul, pour vous ?
Oui, la question est exactement celle-là, et justement je voulais vous lire un extrait dans l'expérience intérieure, texte de Georges Bataille à propos de Don Juan, où il dit « Pour exprimer le mouvement qui va de l'exultation, de son heureuse éclatante ironie à l'instant de la déchirure, je recourais une fois de plus à la musique. Le Don Juan de Mozart, que j'évoque après Kierkegaard et que j'entendis une fois du moins comme si les cieux s'ouvraient, mais la première seulement, car après coup je m'y attendais, le miracle n'opéra plus, présente deux instants décisifs. Dans le premier, l'angoisse pour nous est déjà là, le commandeur est convié au souper, mais Don Juan chante. Dans le second, le héros tenant la main de pierre du commandeur qui le glace est pressé de se repentir. Le bavardage futile, psychologique à propos de Don Juanisme me surprend, me répugne. Don Juan n'est à mes yeux, plus naïf, qu'une incarnation personnelle de la fête, de l'orgie heureuse qui nie et divinement renverse les obstacles. »
Mais alors, Jean-Paul Gasparian, le don juanisme, c'est vrai qu'on pourrait en parler en musique. Vous êtes pianiste, vous commencez à jouer pas mal. Donc il y a, j'imagine, ce questionnement sur comment on concilie ce qu'on ressent au quotidien, ce qu'on ressent dans le temps du concert, avec le monde qui vous entoure, et avec cette forme de maladie qui peut toucher pas mal de musiciens, qui est le don juanisme, justement. Pas forcément tel que le voit Georges Bataille,
oui.
C'est-à-dire entre exultation ironique et déchirure intérieure, quoique on pourrait peut-être, oui, se dire que tous les musiciens sont un peu comme
ça. C'est
ça,
mais
en fait.
C'est très intéressant le fait qu'ils prennent comme exemple l'opéra de Mozart, justement, parce que ce que la citation montre, c'est que, évidemment, Don Juan dans l'opéra est confronté à la figure du commandeur, qui est une figure autoritaire, autorité morale et divine à la fois, mais son rapport à l'autorité n'est jamais réactif. Et justement, la musique porte une affirmation très grande, notamment dans les airs de Don Giovanni. C'est-à-dire que, en fait, pour Don Juan, les catégories de faute, de péché, de mauvaise conscience sont dérisoires, en quelque sorte. Et c'est justement toute sa grandeur qui résiste dans le refus obstiné du dernier acte face au commandeur et, on pourrait dire, la fidélité à la transgression, si tu veux.
Hmm.
Et justement, qui fait qu'il échappe aux injonctions du commandeur.
Et ça, d'un point de vue pragmatique, vous l'appliquez, cette notion que la musique permet de s'affirmer, parce que c'est Bataille aussi qui dit à propos du mouvement entre intérieur et extérieur que c'est comme jouer l'homme ivre, titubant, qui de fil en aiguille prend sa bougie pour lui-même, la souffle, et criant de peur, à la fin, se prend pour la nuit. C'est-à-dire cette espèce de confusion,
oui,
entre sujet et objet.
Oui.
C'est-à-dire qu'à un moment, on
c'est
joue...
C'est l'instant dionysiaque.
Et ça, si vous le ressentez au quotidien ou pas, ou en concert?
Oui, dans la musique, absolument, oui. C'est vers un état de cet ordre qu'il faut tendre.
Alors j'espère que vos neurones sont bien en place de votre côté du poste, parce qu'on va continuer notre petite pérégrination portrait de vous, Jean-Paul Gasparian, et cette fois-ci avec Wagner.
Thank you.
Magnifique duo de l'Ode à la nuit éternelle de l'amour dans l'acte 2 de Tristan et Isolde de Wagner avec Herbert von Karajan à Bayreuth avec 52. L'orchestre du festival de Bayreuth en 1952 et puis ces deux très grands chanteuses-chanteurs, Ramon Vinet et Martha Medel. Très très belle version avec vous, Jean-Paul Gasparian, vous avez 18 ans, vous êtes pianiste. Et c'est vrai que bah, vous faites partie de ces pianistes qui lisent beaucoup, qui se nourrissent de philosophie.
Justement.
Et dans la critique justement, entre la critique de Nietzsche à l'égard de Wagner est quand même quelque chose qui est un petit peu plus compliqué c'est que ça, le binarisme haine-passion.
Mais justement, chez moi, la découverte passionnée de Wagner est directement liée à mes lectures de Nietzsche. Et j'étais tout de suite très intéressé et fasciné par le rapport entre Nietzsche et Wagner, qui est bien plus complexe que ce qu'on croit, puisque d'un côté, évidemment, après 1878, qui est une année très importante et symbolique dans l'esprit de Nietzsche, puisque c'est l'année où les deux manuscrits d'Humain, trop humain et Parsifal se croisent. C'est aussi l'année où Nietzsche entame sa série de voyages méditerranéens, notamment en Italie et même en France, puisque, par exemple, il écrira une partie du Zarathoustra à Nice, et même à Aise, où on peut toujours emprunter le sentier Nietzsche. Donc, à partir de 1978, la critique de Nietzsche à l'égard de Wagner va devenir de plus en plus violente. C'est-à-dire qu'il passe du statut de modèle ou de génie de la Renaissance de l'esprit grec et dionysiaque à celui de symptôme du nihilisme moderne. Et à cet égard, Parsifal, pour Nietzsche, c'est vraiment la soumission finale à l'ascétisme chrétien et à tout le système de valeurs que Nietzsche entreprend de déconstruire. Mais en réalité, si on lit plus précisément notamment des lettres ou des fragments posthumes, on se rend compte que jusqu'à la fin, Nietzsche conserve une passion musicale réellement immense pour Wagner. Et notamment, j'aimerais vous lire deux phrases dans un texte de 88, c'est-à-dire pratiquement la dernière année de la vie consciente de Nietzsche avant son effondrement, où il dit « Mais j'en suis encore aujourd'hui à chercher une œuvre d'aussi dangereuse fascination, d'une infinitude aussi effrayante et aussi suave que Tristan. Je la cherche dans tous les arts en vain. Toutes les étrangetés de Léonard perdent leur charme dès la première note de Tristan. »
Je suis souvent frappé par la surdité qui est à l'œuvre dans le cinéma d'une façon générale.
Par là ?
La surdité, les films sourds ou quelque chose de cet ordre-là, quoi. C'est-à-dire, on a l'impression que la musique n'a pas été pensée comme un élément constitutif. Enfin, musique, le son,
non, quand même, chez Bernard Herrmann et Hitchcock, ça l'était. Et encore, il y en avait trop, quand même. À des moments, c'est... Même Hitchcock, c'est Vertigo, Psycho, c'est insupportable. Tout le temps. Il y a quelque chose... très malade chez les Américains, là, comme ça, une comédie musicale encore, mais dans un film dramatique, ils ont plus de musique que dans les anciennes comédies musicales.
Avec vous, Jean-Paul Gasparian. Vous êtes pianiste, vous avez 18 ans, sur la musique de Georges Delerue pour le film Le Mépris de Jean-Luc Godard. Et puis cette petite citation avant très drôle sur le remplissage, l'importance de la musique globalement dans à l'image et cette notion de surdité.
Mais je suis très attentif à l'utilisation cinématographique de la musique, et je pense que je me suis rendu compte que finalement tous les grands réalisateurs attachent une grande importance à la musique, de manière évidemment très différente selon les cas, dans la mesure où elle peut vraiment apporter une dimension supplémentaire au film. Et évidemment, qu'il s'agisse de Kubrick, de Bergman, évidemment de Godard ou d'Hitchcock, ils ont tous pensé l'agencement de la musique et de l'image. Et évidemment, on n'imagine pas Orange Mécanique sans la 9e de Beethoven. De même, on n'imagine pas Mort à Venise sans la Adagietto de Mahler.
Et c'est Godard qui disait justement dans Audiovisuel, rappelez-vous toujours que audio vient en premier. Et j'aime beaucoup cela. Alors c'est vrai que parmi vos références, votre monde intérieur, Jean-Paul Gasparian, on a évoqué la philosophie, on va y revenir un petit peu plus tard avec Badiou et Deleuze. Mais il y a aussi une réflexion sur la notion de qu'est-ce que c'est qu'une figure, une grande figure d'interprétation. Qu'est-ce que c'est que l'avant-garde ? Moi, ça m'a toujours questionné, cette notion de l'avant-garde, d'être en avance sur un temps dans lequel on s'exprime. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, l'avant-garde et les musiques d'avant-garde ?
Je pense qu'on va, en écoutant la prochaine séquence musicale, on aura l'occasion de parler de la figure de Poligny, qui est à mon avis exemplaire de ce point de vue. D'abord, sur le plan strictement musical, parce qu'il a proposé des versions extraordinaires, des versions de référence sur un répertoire extrêmement large, depuis Chopin et Schumann jusqu'à Boulez et Nono.
Donc la figure, pour vous, d'un grand interprète, c'est celle-ci, c'est celle de passer
entre
d'un
autres,
répertoire
oui,
à l'autre.
C'est-à-dire à plusieurs niveaux. Sur le plan musical, c'est ça, mais aussi, dans la mesure où Poligny était toujours attentif à l'esprit du temps, d'une part par la création contemporaine qu'il a contribué à diffuser, mais aussi d'autre part par son engagement politique et social, notamment aux côtés de ses compagnons et camarades Abbado et Nono, puisque tu sais qu'ils ont tous les trois milité au Parti communiste italien dans l'Italie des années 60 et 70, et notamment, plus que ça d'ailleurs, puisqu'à travers les concerts à l'usine ou dans les prisons, ils ont essayé de produire une nouvelle figure de l'événement musical.
Et transposé à aujourd'hui.
C'est ça. C'est possible, justement, ça aujourd'hui, cette figure apparaît de plus en plus rare et singulière, dans la mesure où la préoccupation générale, si je puis dire, c'est plutôt la prochaine campagne publicitaire que le prochain combat politique et social. Mais bon, après tout, comme disait Schoenlein, il faut parfois avoir le courage d'aller à contre-courant.
Oui, mais alors, bon, à contre-courant, alors on va parler d'avant-garde, hein, bien sûr, mais aussi de modernité. Est-ce qu'il y a une modernité ou des modernités, Jean-Paul Gasparian, avant d'écouter Bartok ?
Il y a cette injonction rimbaldienne, il faut être absolument moderne, qui a été portée par les avant-gardes du XXe siècle. Et à ce titre, j'aimerais vous lire un extrait justement dans un texte qui s'appelle « Le siècle » d'Alain Badiou et le chapitre à propos des avant-gardes où il dit « C'est que les avant-gardes, et c'est leur façon de porter la toute neuve passion du réel, ne conçoivent l'art qu'au présent et veulent forcer la reconnaissance de ce présent. L'invention est une valeur intrinsèque, la nouveauté est par elle-même délectable. L'ancien et la répétition sont haïssables, de là que la rupture absolue est salutaire, elle qui contraint aux conséquences du seul présent. C'est l'interprétation dominante par les avant-gardes de l'énoncé de Rimbaud, il faut être absolument moderne. L'art n'est pas essentiellement une production d'éternité, la création d'une œuvre dont le futur sera le juge. L'avant-garde est soucieuse qu'il y ait un présent pur de l'art. Il n'y a pas à attendre, il n'y a pas de postérité, il y a un combat artistique contre la sclérose et la mort ici et maintenant, et il faut remporter la victoire. Et comme le présent est constamment sous la menace du passé, qu'il est fragile, il faut l'imposer par l'intervention provocatrice de groupes qui assurent le salut de l'éphémère et de l'instant contre l'établi et l'institué. »
Thank you.
live musique absolument géniale, le final du premier concerto de Béla Bartók, Maurizio Pollini, Claudio Abbado, l'Orchestre Symphonique de Chicago, pour votre partie d'en jouer Jean-Paul Gasparian. Alors c'est vrai qu'en écoutant cela et en écoutant votre construction intellectuelle et mentale, je me disais, mais quels sont les points de contact réels pour vous entre musique et philosophie, et surtout, quelle est la place de l'émotion dans cette structure mentale, de cette causa mentale, dirait Léonard de Vinci ?
Dans le lien entre la musique et la philosophie ? Je pense que la philosophie doit tenter de penser la musique non pas en position d'objet, mais plutôt penser la musique comme une procédure singulière, et comme capable, par elle-même, de porter sa propre création, justement. Et évidemment, l'émotion tient une place essentielle. Et
également... Est-ce qu'il faut s'en méfier justement de l'émotion?
Non,
par rapport
non,
à ce que vous
pas.
Dites, non.
Non, non. Non, non, au contraire. C'est dans l'interprétation, aussi bien que pour l'auditeur, l'émotion c'est un mouvement fondamental de l'écoute. Et s'il est absent, c'est inutile.
Alors, c'est vrai que, bon, on parlait d'engagement en parlant de Pollini. En étant un petit peu aussi nostalgique de cette époque qu'on n'a pas connue, mais de voir si ces étincelles pourraient avoir du sens aujourd'hui. Et c'est vrai qu'en préparant votre partie d'en jouer, vous m'avez dit d'aller voir une conférence de Gilles Deleuze aussi, on y fera référence un petit peu plus tard, une conférence à la Fémis, un très beau texte sur, la création artistique,
ouais.
et résistance, où en gros, il cite une très belle phrase de Malraux.
Exactement.
Et c'est très touchant d'ailleurs de l'entendre Deleuze, où il dit « L'œuvre d'art, c'est la seule chose qui résiste à la mort ». Mais précédemment, il dit l'œuvre d'art n'a rien à voir avec la communication, mais avec un acte de résistance. Moi, la question que je me posais, mais en fait, on parle d'œuvre d'art, mais où se place l'interprète dans tout ça? Est-ce que l'interprète est capable de contribuer à une œuvre d'art? Quelle est sa place?
Sur la question de l'interprétation, je pensais faire une comparaison entre Pollini et Pogorelitch sur cette question de l'interprétation. Pourquoi? Il me semble que une écoute un peu superficielle pourrait laisser penser qu'il y a un objectivisme de Pollini, un objectivisme formel, d'un côté, et de l'autre un subjectivisme excessif de Pogorelitch, c'est-à-dire d'un côté un respect minutieux du texte, mais un certain formalisme froid, et de l'autre une virtuosité flamboyante, mais des trahisons stylistiques inacceptables. En réalité, je pense qu'au contraire, on voit très bien qu'il y a une intensité extrême et un engagement très profond dans l'interprétation de Pollini. Et de même, il y a une profonde méditation sur l'esprit et la quintessence de l'écriture des œuvres chez Pogorelitch. Donc à mon avis, il y a une nécessité dialectique dans l'interprétation. C'est-à-dire qu'à mon avis, une interprétation originale, c'est toujours la rencontre entre un questionnement et une idée. C'est-à-dire un questionnement du texte lui-même et une idée singulière qui naît du questionnement, mais pour y inscrire la vision de l'interprète. Et à mon avis, c'est cela qui produit le style propre de l'interprète, qui est toujours un style sensible, un style émotif. Donc à mon avis, tout l'enjeu, c'est de combiner à la fois une rigueur de lecture pour éviter l'inconsistance superficielle, avec un investissement subjectif profond qui imprime à l'œuvre le mouvement ou la vibration, si tu veux, d'une singularité qui est celle de l'interprète.
Alors vous parliez de Ivo Pogorelitch. Eh bien, on écoute ici la fin du 4e scherzo de Chopin.
Thank you.
Magnifique, Ivo Pogorelitch, dans le quatrième scherzo de Chopin, un très très grand interprète. Avec vous, donc Jean-Paul Gasparian, c'est vrai qu'on parle beaucoup de philosophie et à la fois on se dit, mais vous avez 18 ans, quand et comment avez-vous trouvé le temps pour lire autant et pour accompagner votre travail pianistique? À quoi ressemblent vos journées? Vous avez des parents qui sont pianistes,
tous
vos deux parents?
Tous les deux pianistes.
Alors, oui. Ça doit vous paraître peut-être anecdotique, parce que c'est vrai qu'en préparant l'émission, vous me disiez, oui, mais c'est Deleuze qu'on écoutera peut-être tout à l'heure ou pas, mais qui parle de la petite affaire privée, c'est-à-dire parler de soi, finalement, ne débouche pas sur quelque chose qui a beaucoup de sens pour vous.
Oui, parce que quand Deleuze parle de la petite affaire privée, il veut évidemment dire que les grandes expériences, qu'elles soient artistiques ou philosophiques, excèdent très largement la simple personne, la petite affaire privée, c'est-à-dire la réduction comme ça.
Mais du coup, bon, vous avez passé votre bac il y a combien de temps?
L'année dernière.
L'année dernière. Alors pour les petites, justement pour la case affaires privées, après je vous promets qu'on n'en parle plus. Mais du coup, CNSM à 14 ans, vous avez des profs comme Jacques Rouvier ou Michel Béroff.
Oui, en ce moment je travaille avec Michel Béroff.
Ça vous arrive de parler de philosophie avec vos professeurs?
Oui, bien sûr, bien sûr. Mais là, j'essaie de lire autant que possible, évidemment. Dès que je ne travaille pas à mon piano, j'essaie de trouver un temps quotidien à consacrer à la lecture, c'est essentiel. Pas exclusivement d'ailleurs des lectures philosophiques, je lis aussi bien de la poésie, des romans.
Alors, on parlait de notions d'avant-garde et d'engagement, de modernité, et c'est vrai que par exemple Pierre Boulez inévitablement pose la question de savoir quel est votre rapport, vous, à la musique de votre temps et de cette cristallisation intense d'un interprète dans la musique de son temps.
Moi, j'ai découvert Boulez à la fois comme interprète en jouant sa première sonate il y a quelques années, mais aussi et surtout comme un auditeur fasciné par les grandes créations musicales de l'après-guerre, également celles de Xenakis, Stockhausen, Berlioz, Ligeti, etc. Et ce qui m'a tout de suite frappé dans leur musique, c'est, je dirais, la fidélité courageuse au projet sériel, et plus particulièrement dans le cas de Boulez à Webern, qui est certainement des trois Viennois celui qui est allé le plus loin dans ce projet. Évidemment, il y a un préjugé tenace quant à la musique contemporaine.
La fidélité courageuse, c'est une formule qui pose question quand même.
Justement.
Est-ce que ce type de fidélité est sain?
Le préjugé, justement, voudrait que cette musique-là, en particulier, soit froide, indifférente ou inaudible, voire inhumaine. Bon, au contraire, je pense que la deuxième sonate pour piano, par exemple, le montre.
Là qu'on entend justement sous nos voix, ici.
Il y a, au contraire, une grande invention, et je dirais même presque un enthousiasme, comme ça, expérimental, mais qui, évidemment, n'était pas dans la figure d'une négociation avec le vieux monde, mais plutôt d'un forçage, ou d'une décision parfois violente, qui, pour soutenir, si tu veux, la nouveauté musicale, avait besoin d'une discipline formelle et artistique, d'où l'impression d'aridité. Mais à mon avis, le plaisir de l'auditeur et le plaisir de l'interprète, le plaisir d'écoute, doit être une conséquence de l'écoute attentive et ouverte au nouveau monde, aux univers sonores. Je dirais que toute nouveauté exige une discipline.
La deuxième sonate de Pierre Boulez par Maurizio Pollini, avec vous Jean-Paul Gasparian dans votre partie d'en jouer. Alors c'est vrai que je retiens cette idée de discipline importante, mais parlant de discipline, désolé de revenir à la petite affaire privée, mais à quoi ressemblent vos journées? Quelle discipline vous imposez-vous?
Bah, évidemment, il y a la discipline du travail pianistique qui est obligatoire quotidiennement, qui peut varier entre 5, 6, 7 heures. Selon les jours, mais j'ai aussi une discipline de lecture. Il m'est absolument nécessaire de lire tous les jours.
Alors, question de l'avant-garde, c'est vrai, être de son temps et dans son temps, et à la fois, peut-être qu'un des mystères les plus incroyables de la musique, c'est la notion d'intemporalité qu'on peut retrouver dans la musique de Bruckner.
Exactement. Oui.
Et c'est vrai qu'en discutant avec Bruckner, avec pas mal de chefs, notamment avec Philippe Hervègue, il y a l'idée, en tout cas, que cette notion d'intemporalité, elle est savamment mise en scène et incarnée dans Bruckner, et que tout le génie de cette musique-là, un petit peu à l'image c'est ce que dit Philippe Hervègue, du cheval blanc qui, dans le film Le Cirque de Chaplin, réapparaît toujours un petit peu de manière impromptue. Bah, cette notion d'intemporalité, elle s'assoirait sur l'apparence ou l'occurrence qui n'a pas les airs de son incarnation, c'est-à-dire d'une apparence, d'un thème qui réapparaît tout le temps, mais qui donne à chaque fois l'impression que c'est un élément nouveau. Ouais. Dans la continuité de la musique qui s'écoute. Qu'est-ce qui vous fascine, vous, dans Bruckner?
Ben, je pense que Bruckner est certainement l'un de ceux... Je pense que Bruckner a poussé très loin l'incarnation du divin dans la musique. Et c'est tout à fait logique que la 9e symphonie soit dédiée à Dieu, précisément. Et dans l'extrait qu'on va écouter, on sent bien cette tension extrême et en même temps un paroxysme émotionnel qui est comme aux limites du son orchestral. On peut dire que la poésie et le langage des limites du langage, là avec Bruckner, on est aux limites du son orchestral et la 9e est certainement l'une de ses œuvres les plus prophétiques qui anticipe et annonce les grands bouleversements du prochain siècle. Et d'autre part, je pense que cette œuvre incarne très bien l'universel, le caractère universel dans la musique, c'est-à-dire que cette symphonie et d'autres excèdent très largement par leur universalité les particularités religieuses ou théologiques, en l'occurrence le christianisme protestant, dont l'œuvre est issue. C'est pour ça que cette œuvre s'adresse potentiellement à tous.
Et donc, vous pourriez nous décrire, Jean-Paul, ce qu'on va vraiment entendre là, parce que c'est la fin.
C'est l'adagio final de la 9e symphonie, et j'ai sélectionné un passage qui est, à mon avis, l'un des plus vertigineux dans l'histoire de la musique, qui est un crescendo qui aboutit à un accord d'une dissonance extrême et extrêmement surprenant et bouleversant.
Ben oui, avec Jean-Paul Gasparian, nous parlions des apparitions immanentes, des énoncés musicaux. Et là, nous avons entendu la fin de l'Adagio, donc le final de la 9e symphonie de Bruckner par Carlo Maria Giulini avec le Philharmonique de Vienne. Et c'est vrai que c'est tellement, tellement impressionnant, Jean-Paul Gasparian, ce qu'on vient d'entendre là.
Ah oui, c'est absolument vertigineux et c'est d'une puissance justement émotionnelle et d'une tension incroyable.
Alors la notion du divin, on a parlé de ce que c'est qu'un sujet un petit peu, l'objet musique. Si je vous dis l'être et l'événement, Jean-Paul Gasparian, vous me dites bah, c'est Alain Badiou parce que vous avez consacré un petit mémoire au CNSM de Paris
mémoire que j'écrirai pour la fin de ma deuxième année de master sera sous le tutorat, j'aurai la grande chance de l'écrire sous le tutorat d'Alain Badiou, dont je suis le séminaire à l'École normale supérieure Rutum depuis 2 ans, et que je lis beaucoup.
Alors qu'est-ce que c'est qu'un événement? Parce que c'est vrai qu'en préparant l'émission, on se disait un événement, c'est pas forcément quelque chose qui se prévoit, et ça a à voir quand même aussi avec la préparation du concert, tout simplement.
Exactement.
Mais c'est le surgissement du hasard, de l'aléatoire.
Évidemment, l'événement, c'est par définition quelque chose d'imprévisible et de hasardeux. Et en effet, dans le concert, il y a aussi cette dimension de surprise, de nouveauté, d'indécidable. Et c'est-à-dire que tout le travail accumulé en amont doit prendre forme et se manifester, s'exprimer dans un moment qu'on ne peut jamais contrôler, en fait, par des prévisions objectives. C'est l'essence même.
Et ça, on appelle ces petites particules des accidents ou pas? Ou ça fait partie, justement, de l'essence même de l'événement?
Oui, c'est ça. C'est l'essence du concert comme événement. Et toute la difficulté, si tu veux, c'est d'une part de déployer les éléments de vision musicale, de construction, de nuances, de dynamique qui ont été prévus à l'avance, auparavant, mûris auparavant. Et d'autre part, c'est ce qu'on a pu appeler l'inspiration, mais qui évidemment n'est rien sans la patience du travail. D'autre part, il s'agit quand même, c'est là le plus important, de produire une invention supplémentaire qui est toujours risquée et qui donne à l'interprétation une couleur ou un mouvement inattendu. C'est pour ça que finalement, quand on va au concert, c'est pas pour entendre une énième fois la répétition de quelque chose qu'on pourrait entendre d'une manière ou d'une autre, mais c'est pour atteindre l'expérience de quelque chose d'inattendu, une altérité en fait du concert.
Et cette notion de risque adompté ou domesticable, elle est quand même très intéressante, parce que là on va vous écouter donc pour refermer ce parti d'enjoué, Jean-Paul Gasparian, eh ben dans ce qui serait le paroxysme de ce risque ostentatoire, c'est un concours à Brême que vous avez passé, que vous avez remporté.
Chez Badiou, c'est justement le sujet qui soutient le choc de l'événement. Donc
c'est ça. Et alors donc, dans cette prise de risque maximum, qui peut avoir des airs de paramusicalité, parce que finalement, on se dit que dans un concours, il est très difficile de se recentrer sur l'essence même de l'événement, de ce qu'on est en train de faire.
Oui, mais j'ai eu la chance.
Être intérieur.
J'ai eu la chance en finale du concours de jouer avec un excellent orchestre et avec un excellent chef, Nicolas Milton, et la Philharmonie de Brême, qui m'ont permis de me sentir extrêmement à l'aise dans le concerto de Tchaïkovski.
Est-ce qu'il y a des imprévus qui vous déstabilisent, Jean-Paul Gasparian?
Oui, évidemment, il y a toujours la tension qui paralyse, la tension qui dynamise, mais à mon avis, et tu sais, c'est Lacan qui disait que l'angoisse, c'est ce qui ne trompe pas, c'est le seul affect qui ne trompe pas. Et je suis persuadé que l'angoisse peut toujours se transformer en courage, et quand c'est le cas, le concert est réussi.
Bah, comme si les cieux s'ouvraient, on revient finalement à Georges Bataille aussi pour refermer ce parti d'enjoué, d'expérience de l'extase. Est-ce que finalement, il n'y aurait pas de l'angoisse dans tout, et que la trajectoire de la vie, c'est d'arriver à composer avec?
C'est ça, oui, je pense aussi.
Alors, un grand merci à vous, Jean-Paul Gasparian.
Merci à vous.
Et on se quitte avec la voix d'Alain Badiou, qui précède ce concerto de Tchaïkovski enregistré pendant le concours, donc la finale de ce concours à Brême. Merci à vous.
Vérité, pour moi, est indissociable de sujet. Je crois qu'on peut expliquer cela assez simplement, sans entrer trop dans la technique. Au fond, comme nous venons de le dire, le sujet est un processus, une construction. Quelque chose qui ne nous est pas donné. Il faut donc qu'un événement se produise. Il n'y a du sujet que si quelque chose arrive. Il ne suffit pas que le monde soit ce qu'il est pour qu'il y ait du sujet. Il faut que quelque chose lui arrive. Voilà. Et donc, le sujet, c'est ce qui se construit après cette brusque intervention dans la situation du monde.
C'est la fin du premier mouvement du concerto de Tchaïkovski par vous, Jean-Paul Gasparian, avec la Philharmonie de Brême, Nicolas Milton à la baguette. C'était donc en finale
du concours. En finale du concours.
Alors, vous avez joué récemment Beethoven.
J'ai joué le premier concerto de Beethoven au Festival L'Heure Poétique et Musicale avec l'orchestre de l'Opéra de Rouen sous la direction de Deborah Waldman. J'avais eu déjà l'occasion de jouer dans ce festival l'année dernière, le troisième de Beethoven.
Et le 24 juin, vous jouez à Reims.
C'est ça, au Festival des Flâneries de Reims, autour d'un programme consacré à Debussy et Liszt.
Un grand merci à vous, Jean-Paul Gasparian. Éric Lancien a réalisé cette émission. Jean-René Bonissant m'a aidé à la préparer avec aujourd'hui Benjamin Vignal à la prise de son et au mixage. Vous pouvez bien sûr écouter tranquillement cette émission. Et je crois que c'est de circonstance pour assimiler un petit peu toutes les idées que vous avez disséminées, Jean-Paul Gasparian. Et on se retrouve la semaine prochaine. Et pour l'heure, vous avez rendez-vous avec Jérémy Rousseau comme si vous y étiez. Bonsoir, Jérémy.